chronique d'un autostoppeur. Mon tour du monde en 15 fois 15 minutes. Une émission mensuelle dépaysante proposée par Jérémy Fischer, écrivain biographe. Il vous emmène dans son périple de 15 mois, réalisé de février 2019 à mai 2020.
Salut les routards et bienvenue dans ce 14e épisode. Aujourd'hui, nous allons lever le pouce en Australie. Dans la première partie de l'émission, nous irons de Sydney à Canberra. Dans la seconde, nous mettrons le cap sur Benalla, un patelin inconnu du grand public situé dans l'état de Victoria. Lorsque j'atterris à Sydney le 10 mars 2020, j'ai l'intention de faire le tour de l'Australie en autostop. J'ai 3 mois à ma disposition. C'est peu pour parcourir 18 000 km, mais je crois que je peux y arriver si je ne traîne pas trop en route. L'Australie est la dernière étape de mon voyage. Cela fait quelques semaines que j'entends parler du Covid, mais aucune mesure concrète n'a encore été prise, ni en France, ni en Australie. Alors pour commencer, je visite Sydney sans trop y penser. La ville a été fondée en 1788, lorsque la Grande-Bretagne a décidé de créer une colonie pénitentiaire sur cette île. Au centre-ville, je découvre le quartier d'affaires et la Tower High, qui s'élève à 305 mètres. Je passe au jardin botanique, devant la cathédrale, mais aussi l'opéra que tout le monde connaît. Imaginé par un architecte danois, l'opéra de Sydney est le bâtiment le plus célèbre du XXe siècle, véritable symbole du pays. Je me rends au 63 Miller Street. C'est là que se trouvait le studio où l'un de mes groupes favoris des années collège et lycée a enregistré son premier album, Frogstomp, lorsque ses membres avaient 15 ans à peine. Je parle bien évidemment de Silverchair, dont voici la chanson Shade.
Don't feel bad.
Le 15 mars 2020, l'Australie instaure une quarantaine de 14 jours pour tous les nouveaux arrivants sur son territoire. Je ne suis pas mécontent d'y échapper à 5 jours près. Au même moment, je quitte Sydney direction Canberra. J'ai 400 km à parcourir. Je me demande s'il me sera possible de trouver des covoiturages malgré la peur qui s'installe dans le monde entier en raison de cette pandémie. Rapidement, je monte avec Tom. Sur la route, je vois mon premier kangourou. L'animal est mort, allongé sur le bord de la chaussée. Je continue avec John, un Irlandais qui habite ici depuis 16 ans. C'est pendant ce trajet que je vois pour la première fois une zone sinistrée par les incendies de la fin d'année précédente. En 2019, 2 millions d'hectares sont partis en fumée dans tout le pays. J'embarque ensuite avec un jeune surfeur, puis avec deux femmes qui font un détour pour m'avancer un peu. Deux covoiturages plus loin, je termine ma journée à Warri Reserve, un site naturel où il est possible de camper pour la nuit. Soirée au coin du feu, avec un couple de retraités écossais. Ma première journée de stop en Australie a super bien fonctionné. J'ai parcouru 315 km en 6 trajets. Demain, il me reste 75 bornes pour atteindre Canberra. Apparemment, la crainte provoquée par le Covid n'est pas encore un obstacle pour faire du stop. Espérons que ça dure. Le lendemain, je lève le pouce pendant 20 minutes quand deux voitures s'arrêtent en même temps. Toutes les deux sont passées quelques secondes auparavant et ont décidé de faire demi-tour simultanément. Je salue et remercie le chauffeur de la seconde qui s'en va, laissant la priorité à la première automobiliste. C'est Yushan, une Chinoise résidant en Australie depuis 10 ans. Sur la route, on croise un animal que je n'ai jamais vu. Ma conductrice me dit qu'il s'agit d'un wombat. Ce mammifère de la famille des marsupiaux ressemble à un petit ourson trapu et court sur pattes. Arrivé à Canberra, Yushan me conduit à un panorama sur la ville. L'antagonisme entre Sydney et Melbourne ayant abouti à un statu quo, il a été décidé, en 1908, de construire la capitale australienne, quelque part, entre ces deux rivales. Un concours a eu lieu et un projet pensé par des architectes américains a remporté la majorité des suffrages. Canberra désigne un lieu de rassemblement dans la langue aborigène locale. Yushan me dépose ensuite au mémorial de la guerre. Elle reprend la route après avoir pris mon numéro de téléphone et m'avoir proposé de randonner ensemble la semaine prochaine quand je passerai chez elle. Le musée est incroyable. Il propose des expositions particulièrement bien documentées au sujet de tous les conflits armés auxquels ont participé les troupes australiennes. Tous les soirs, à la fermeture du musée, un hommage public est rendu à l'un des soldats morts au combat. Après y avoir assisté, je pars à la recherche d'un endroit où camper pour la nuit. Je m'oriente vers l'église Saint-John, en me disant que le pasteur acceptera peut-être que j'installe ma tente chez lui. Un quart d'heure plus tard, je le rencontre et lui explique ma situation. Il est d'accord pour que je plante ma tente à deux pas du cimetière. Paul m'explique que l'église a été bâtie en 1841. Il n'est pas peu fier de me dire que la capitale de l'Australie a été construite autour de son église. C'est ainsi que j'ai l'occasion de passer la nuit sous la tente dans le cœur historique de Canberra. We'll be right back. Nous venons d'écouter AC/DC, le groupe de hard rock le plus connu d'Australie. Hell's Bells est sorti en 1980 sur Back in Black, qui n'est autre que le deuxième album le plus vendu de tous les temps. Dans la seconde partie de l'émission, nous allons repartir sur la route. Le 17 mars 2020, la France est confinée. En Australie, le nombre de cas positifs au Covid est faible et les autorités n'ont pas encore pris de décision. Le jour suivant, je quitte Canberra avec Marianne, une sympathique retraitée rencontrée au musée. Mon objectif est Thredbo, à 250 km de là. C'est le point de départ pour faire l'ascension du point culminant de l'Australie, haut de 2910 mètres. Pour y aller, je covoiture d'abord avec une femme et sa fille. À Kuma, je lève le pouce le long de la route lorsqu'une conductrice m'invite à monter avec elle. Elle se rend à une vingtaine de kilomètres seulement de ma destination. Je prends place aux côtés de Kylie. Le courant passe tout de suite avec cette quadragénaire souriante. Dans sa jeunesse, elle a pas mal bourlingué. Elle a même habité 4 ans au Japon pour apprendre la langue. Lors de son séjour, elle a eu la chance de rencontrer les membres du groupe Face No More. Kylie me propose de m'héberger chez elle. Comme je viens de passer 3 nuits sous la tente, j'accepte avec gratitude. Je fais connaissance avec son époux et leurs enfants et on passe une belle soirée tous ensemble. Le lendemain, je gravis le mont Kościuszko, du nom du héros polonais, chef de l'insurrection nationale contre l'occupation russe à la fin du XVIIIe siècle. La randonnée en solitaire me donne l'occasion de réfléchir à la poursuite ou non de mon aventure dans un contexte de pandémie. Je suis préoccupé par la situation. Il y a un tel contraste entre les nouvelles que je reçois de France et la situation australienne que je commence à m'interroger sur ce que je dois faire. Poursuivre ma route? M'isoler? Ou rentrer prématurément en France? Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. La France préconise le retour de ses citoyens en vacances à l'étranger. En même temps, l'ambassade me dit qu'il n'y a pas de contre-indication à rester ici si je peux légalement séjourner sur le territoire et subvenir à mes besoins. J'envisage les deux options. Je suis toujours en contact avec Yushan, la chinoise qui m'a déposé à Canberra en début de semaine, et elle me réitère son invitation à faire un trek ensemble dans le parc national de Wilson's Promontory. Selon elle, c'est le plus beau parc naturel du pays. Les prévisions météo sont parfaites. C'est le moment idéal avant que les parcs ne ferment et que le pays ne se confine. J'accepte son invitation. Dans la soirée, je fais part à mes hôtes de mes doutes quant à la poursuite de mon voyage. C'est alors que Kylie me dit, le plus naturellement du monde, « Tu peux rester chez nous autant qu'il t'est nécessaire, cela ne nous dérange pas. » Je fais les gros yeux, surpris, et interroge son époux Gavin du regard. Il confirme, « Je suis le bienvenu, si j'ai besoin d'un endroit pour m'isoler. » Leur annonce me laisse sans voix. Qui, en temps de pandémie, est capable d'offrir à un étranger son hospitalité pour une durée indéterminée? Leur offre généreuse et spontanée me libère d'un poids. J'accepte leur proposition amicale et leur fais part de ma décision de rejoindre Yushan pour le trek. C'est la gorge nouée et les larmes aux yeux que je les quitte avec l'idée de les retrouver la semaine suivante pour me mettre à l'isolement, le temps de la crise sanitaire. J'atteins la ville de Benalla, située à 400 km, en 4 covoiturages. Ce sont mes derniers trajets en autostop du voyage. Je rencontre Tim, l'époux de Yushan, et le lendemain, je pars avec elle pour un trek de 6 jours au sud du pays. Équipé de sacs de 75 litres pesant 20 kg, nous parcourons 70 km dans un paysage naturel magnifique. Nous croisons des serpents, un wombat, un scorpion, des sangsues, et un wallaby qui tente de pénétrer dans ma tente pour y chaparder de la nourriture. On a l'occasion de se baigner dans une eau turquoise et de passer 2 nuits en plein air à admirer des étoiles filantes. Stars, brighter than
see stars, wishing that one day you would see stars.
Le dernier jour du trek, le parc est évacué en raison du Covid. Nous avons la chance de pouvoir boucler notre randonnée et on revient à Benalla. On comprend que la situation a changé depuis une semaine. Désormais, seuls les déplacements essentiels sont autorisés et les frontières des États australiens sont fermées. Le retour chez mes amis Kylie et Gavin, dans le New South Wales, est compromis. Tim et Yushan me proposent de rester chez eux dans le Victoria. Ils peuvent mettre à ma disposition leur chambre d'amis. J'accepte avec gratitude et me confine avec eux pour une durée indéterminée. C'est très frustrant de devoir mettre un terme à mon voyage si près du but, et en même temps très réconfortant de bénéficier de cette hospitalité bienveillante à l'autre bout du monde. Dans le prochain épisode, nous reviendrons en France et dresserons le bilan de ce voyage intense de 15 mois. En attendant, portez-vous bien et levez le pouce.
Vous avez écouté Chronique d'un autostoppeur, mon tour du monde en 15 fois 15 minutes. Émission de voyage présentée par Jérémy Fischer, écrivain biographe. Pour commander son livre Journal d'un autostoppeur sur les routes du monde ou prendre connaissance de ses services de conférencier ou d'accompagnement pour l'écriture de votre récit de vie, rendez-vous sur www.desracinesalapage.fr et sur sa page Facebook Des Racines à la Page. Retrouvez tous les épisodes de cette émission en réécoute sur radio-calade.fr. À bientôt pour de nouvelles aventures.